Merci pour cette belle présentation. Et d'abord, je tiens à remercier aussi les organisateurs, en première ligne Sabina Tortorella et Olivier Beau, de m'avoir associé à ce très stimulant petit congrès qui m'a apporté beaucoup. Sabina m'a prévenu aussi que les présentations PowerPoint jouissent en France d'une popularité qui égale à peu près celle du président Macron. Mais du coup, je vais quand même vous infliger. Je vais quand même vous infliger ça. Ça m'évite de lire des longues citations et ça alourdit, alourdirait le propos. Pour ma part, il n'est pas évident de parler dans le cadre d'un colloque consacré à l'esquisse d'une phénoménologie du droit, de la vision du commerce international que Kojève élaborait dans les années 60. Et Sabina m'a gentiment rappelé le thème central autour duquel cet événement tourne, à savoir la pensée juridique de Kojève. Il est bien vrai que l'idée de mettre en relation les réflexions sur les relations internationales et l'économie contenues dans l'esquisse avec l'engagement administratif ultérieur de Kojève relève de l'engageur. À tout le moins, c'est une démarche qu'il convient de justifier afin de laver du soupçon de l'arbitraire qui pourrait peser sur elle. Dans ce qui suit, je vais essayer de m'acquitter de la tâche qui m'est dévolue d'une manière convaincante, car mon but aujourd'hui est de vous montrer qu'il y a en effet un lien très très intime entre les réflexions de Kojève sur le droit et les convictions qui sous-tendaient ses activités au sein des organismes internationaux. Pour y parvenir, je vais procéder en quatre temps. Dans la première section, je vais aborder très très brièvement le rôle du droit dans l'introduction à la lecture de Hegel. Dans la deuxième partie, je vais m'attarder un peu plus longuement sur le rôle de l'économie et des relations internationales dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit. Puis, dans un troisième temps, il convient de dire un mot du rapport changeant entre la politique et l'économie dans l'œuvre de Kojève. Et je vais enfin conclure sur quelques remarques relatives à la réorganisation des marchés internationaux que Kojève a préconisé dans les années 60. Mon exposé part de l'hypothèse que l'esquisse d'une phénoménologie du droit occupe une place charnière dans le parcours intellectuel de Kojève. Une place qui ne s'éclaire qu'une fois qu'on a délimité, ne fût-ce que sommairement, la portée du droit dans les travaux antérieurs et son cheminement postérieur, c'est-à-dire dans les textes rédigés après 1943. Rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Rappelons d'abord que le droit n'est pas un sujet qui est complètement escamoté dans le cours sur Hegel que Kojève professe dans les années 30. Les phénomènes juridiques n'y sont point omis, mais dans l'introduction à la lecture de Hegel, Kojève s'en tient à des remarques d'ordre historique sur le droit romain, ancêtre lointain du droit privé. Il s'y trouve également des développements concis sur le droit tel qu'il se déploie à la croisée de la foi et de l'Aufklärung. Or, le droit n'est jamais abordé comme phénomène à part entière, comme domaine autonome de l'existence humaine, comme il dira plus tard. Le droit n'a pas de place à l'intérieur de la dialectique de la reconnaissance. Le fait que Kojève n'aménage qu'en espèce conceptuelle modeste au droit correspond d'ailleurs bien à l'écrit hegelien dont il s'inspire. La phénoménologie de l'esprit n'est pas un traité juridique, loin de là, et le peu d'attention que Kojève prête au droit dans les années 30 est dans la droite ligne du texte qui lui sert de modèle et qu'il s'attache à commenter. Tout cela change avec l'esquisse d'une phénoménologie du droit. Comme l'indique déjà le titre de ce manuscrit, Kojève déplace, pour ainsi dire, son curseur à l'intérieur du corpus hegelien, de la phénoménologie au principe de la philosophie du droit. Même si Kojève ne suit la structure des principes pas à la lettre, même si, comme Jean-François Kervégan l'a fait ressortir hier, les principes de la philosophie du droit sont beaucoup moins présents qu'on aurait pu le croire, il n'en reste pas moins que Kojève en reprend à son compte certains composants, notamment la structure tripartite de la famille, de la société civile et de l'État. Qu'il soit dit en passant que l'expression « société civile » n'apparaît pas une seule fois dans l'introduction à la lecture de Hegel, ce qui est tout à fait cohérent là encore, car Hegel ne l'emploie jamais dans la phénoménologie de l'esprit. La société civile est l'une des innovations conceptuelles des principes de la philosophie du droit. Ça se prépare dans les cours à Iéna, mais c'est autre chose. C'est un point capital d'ailleurs sur lequel j'aurai à revenir. Mais revenons pour l'instant à l'esquisse que j'ai. Bien sûr qu'il n'est pas possible, dans le temps qui m'est alloué, de fournir une interprétation globale de ces gigantesques traités. Aussi me forcerais-je de me focaliser sur deux aspects qui posent des jalons pour la vision du commerce international que Kojève esquissera dans les années 60. Ces deux aspects concernent le rôle de l'économie et les relations internationales. Qui dit société civile dit d'entrée de jeu vie économique. C'est le cas pour Hegel et il en va de même pour Kojève. La sphère économique jouit d'une consistance propre et ne se laisse pas résorber entièrement par le domaine politique de la lutte. Mais ce n'est pas tout. Si lutte et travail sont des notions familières aux lecteurs de Kojève, là il va plus loin en introduisant une troisième notion, celle de l'échange. L'échange est à peine effleuré dans l'introduction à la lecture de Hegel. Il n'y a qu'un seul passage où Kojève en fait mention, sans d'ailleurs approfondir la problématique. Je vous ai préparé là cette citation, là encore. Et contrairement à sa négligence relative dans les années 30, la notion d'échange acquiert un poids plus considérable dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit. L'échange socialise le travail, le met en circulation, et de ce fait, il ouvre la vie économique au droit. C'est par le biais de l'échange et non pas par celui du travail que le droit se faufile dans la vie économique. Pourquoi le travail ne peut-il être accoucheur du phénomène juridique? Parce qu'il met en rapport l'homme et la nature, laquelle est transformée par l'intervention laborieuse du travailleur. Et aux yeux de Kojève, ce rapport ne se prête pas à l'action d'un tiers intéressé. J'ouvre une quand vous lisez cette citation, j'ouvre une parenthèse. Si on soumettait cette citation au jugement de Bruno Latour ou Philippe Descola, il ne souscrirait certainement pas à l'idée suivant laquelle personne ne prendra la parole au nom de la nature. Je ferme la parenthèse. C'est donc par l'autre porte, pas celle où est écrite travail, mais celle où est écrite échange, c'est par cette porte que le droit s'insinue dans la sphère économique. Et une fois installé au cœur des échanges économiques, le droit se répand comme une traînée de poudre. L'échange favorise et accélère l'avènement de l'empire mondial du droit. C'est vraiment la citation clé pour mon exposé ici. Je vous ai préparé parce qu'il y a, comme une dynamique propre vers la mondialisation que possède le droit, et spécifiquement le droit commercial. Alors, toute proportion gardée, nous assène Kojève, les systèmes juridiques modernes sont imprégnés de droit commercial, c'est-à-dire du droit régissant les échanges économiques. Plus s'accuse le penchant pour le commerce, plus s'observe en foisonnement des règles de droit qui, et c'est crucial, ne sont pas vécues comme en joug, mais comme en appui des activités économiques. Et de par son essence transfrontalière même, le commerce appelle un cadre juridique qui, petit à petit, recouvre la planète entière. Le commerce pousse donc vers l'unification économique du monde. Le terminus du périple historique est donc clairement annoncé. C'est ce que Kojève appelle l'union juridique mondiale, qui prendra la forme d'une fédération mondiale, ou, c'est aussi une formule qui revient sous sa plume, d'un empire socialiste. Je n'aurai ici malheureusement pas le temps de faire la part de ces notions dont chacune mériterait un exposé à part entière. Ce qui m'importe ici, c'est le fait que seulement au moment de la disparition des États particuliers, c'est seulement au moment de la disparition des États particuliers que le droit international est non plus un droit en puissance, mais un droit réel. Or, ce n'est pas gagné d'avance, puisque Kojève nous met en garde en disant qu'il se peut fort bien que cet empire ne soit jamais réalisé. Mais si jamais cette étape sera atteinte, l'union juridique mondiale sonne l'avènement dans le monde dépourvu de guerre. Oh, ce qui n'aura pas disparu, et c'est très important, ce sont les différends et les conflits d'entrée économique. Dans l'univers post-historique, il y aura donc une opération continue et efficace de rééquilibrage et de redistribution économique. Mais comment y arriver? Par quel vecteur politique passe cette unification juridique du monde? C'est la question des relations internationales qui est soulevée ici. Et c'est une question qui complique singulièrement le tableau de la relation triangulaire qui caractérise le droit. Au risque de vous ressasser des truismes, les États craignent l'intervention d'Antilles comme une entorse inadmissible à leur souveraineté. Toute prétention au rôle d'arbitre désintéressé se heurte à des soupçons de n'être qu'un stratagème politique camouflé. Il n'est donc pas surprenant que Kojève fasse allusion à Saint-Augustin quand il remarque que les relations internationales semblent gouvernées par le droit des brigands. Si bien qu'à lire certains passages de l'esquisse, comme il a été remarqué hier aussi, on a l'impression qu'un vent schmittien y souffle. La guerre est l'une des forces motrices des rapports interétatiques, il est le corrélat naturel d'une société d'amis qui ne se constitue en état qu'un face à un ennemi commun, et sans adversaire extérieur, pas d'unité intérieure de l'État. Mais par définition, des rapports entre ennemis excluent l'ingérence d'un tiers impartial. Certes, l'inimitié intra-étatique, la lutte pour la reconnaissance entre États, peut déclencher des avancées objectives. Ainsi, Kojève explique-t-il que l'hostilité à la garde d'un ennemi commun est à même de susciter des alliances qui peuvent entraîner une certaine fédéralisation des structures juridiques. Il ne reste pas moins que la puissance émancipatrice de la guerre se trouve considérablement relativisée par rapport à l'introduction à la lecture de Hegel. Kojève dépend désormais les guerres, notamment les guerres de conquête, comme un frein au progrès, comme une impasse pour la juridicisation souhaitable des relations internationales. Notons aussi que Kojève fait valoir que le citoyen de l'Union juridique mondiale ne sera pas un guerrier. Là encore, la comparaison avec l'introduction à la lecture de Hegel est instructive, où le citoyen de l'État post-historique est décrit comme la synthèse du soldat et du travailleur, voire comme un travailleur-soldat, et où c'est la guerre qui hâte l'apparition de l'État universel et homogène. Cependant, tout compte fait, Kojève maintient que le droit international public ne peut pas naître d'interaction politique entre les États. Le domaine politique s'avère incapable d'engendrer un processus de judiciarisation dans les rapports interétatiques. L'impulsion doit venir du dehors. Si la société économique, c'est-à-dire non politique, dont la politique qui commande des infléchissements que les États n'auraient pas initiés de leur propre accord, ces intrusions, l'État peut les repousser, mais il en subira les effets délétères. Kojève rejette catégoriquement l'option, disons, festéen d'un État commercial fermé. L'autarcie ne représente point une solution. En réduisant la marge de manœuvre des États particuliers, la société économique ouvre paradoxalement la voie à leur internationalisation. Ces paragraphes qu'on trouve dans l'esquisse d'une phénoménologie de droit sont autant de panneaux de signalisation conceptuelle pour indiquer le chemin qui mène vers l'État universel et homogène. Et cette poussée transnationale, cet élan qui déborde le cadre de l'État, cette volonté de soumettre l'État à des règlements qui ne se seraient pas nécessairement imposés ni à lui-même ni à ni à d'autres États, tout cela a pour origine la société et les droits économiques. Pourtant, Kojève ne se montre finalement agnostique sur la voie royale pour accéder à l'Union juridique mondiale. Tout comme l'État peut étendre son emprise politique à travers des conquêtes, il peut procéder pacifiquement par incorporation juridique progressive. À cet égard, l'État peut être certes non l'origine, mais le véhicule de la juridicisation des relations internationales. Il y aura beaucoup à dire de la fédération, à la fois prolongement et dépassement de la logique étatique, mais Kojève se contente ici d'une ébauche. Il y a comme une prise en charge par l'État d'un soubresaut qui lui a été relayé par la société. Ou pour le dire autrement, il y a une société qui s'étatise. Pour résumer cette partie, la révalorisation de la sphère économique et son rôle, sinon assuré, du moins potentiel, dans la création des relations internationales gouvernées entièrement par les principes juridiques, représente un nouveau départ dans la pensée de Kojève. Dès lors, on peut s'interroger sur le statut d'un manuscrit inédit du vivant de Kojève et dont la diffusion a, de ce fait, été des plus restreintes. Avons-nous donc affaire à un écrit tout à fait confidentiel et dénué de lecteurs? Quel a été le rayonnement de ce texte, aussi bien sur la trajectoire de Kojève que sur les gens qu'il côtoyait? L'importance que Kojève accordait à son esquisse d'une phénoménologie du droit ressort clairement de sa correspondance avec ses interlocuteurs privilégiés. L'esquisse n'est pas un écrit de circonstance. Kojève en a sans doute régulièrement discuté avec Léo Strauss. Et il est tout aussi indubitable que Kojève a pendant un moment envisagé une publication du manuscrit. Là, je vous cite la lettre de 1949, c'est-à-dire 6 années après la rédaction, où Strauss s'enquiert auprès de Kojève si les plans de publication ont bien avancé. À y regarder de plus près, le droit se taille une place non négligeable dans les écrits de Kojève rédigés après-guerre. Dans son article « Hegel, Marx et le christianisme », paru dans l'une des premières livraisons de la revue Critique, Kojève se saisit de l'occasion d'un compte rendu pour retracer brièvement l'évolution philosophique de Hegel. Il est livré également en condensé de la lutte pour la reconnaissance, dont il insiste désormais qu'elle n'est pas seulement à l'origine de la vie sociale de l'homme. Avec la lutte pour la reconnaissance se crée aussi l'univers juridique à l'intérieur duquel l'homme agit. Que le droit soit inscrit dans la scène primitive de la philosophie de l'histoire est une idée qu'on aurait cherchée en vain dans le cours sur Hegel dans les années 30. Mais après 1945, la sphère juridique constitue un élément essentiel de l'existence humaine, elle est centrale et elle ne sera plus jamais mise en question par Kojève. Cependant, quelque chose d'autre se passe encore dans l'après-guerre. Le juridique est désormais un acquis définitif dans la pensée de Kojève, mais les coordonnées du cadre de référence dans lequel les phénomènes juridiques prennent sens changent. C'est devenu un lieu commun dans les études kojèviennes que de souligner que la Seconde Guerre mondiale marque une césure pour Kojève, dans la mesure où elle le conduit à modifier la chronologie de la fin de l'histoire. Si cette fin désigne, dans ses leçons sur Hegel prononcées dans les années 30, un horizon lointain vers lequel il faudrait faire converger l'action politique, si nécessaire par des moyens violents et révolutionnaires, la situation se présente sous une lumière tout à fait différente après 1945 ou plus précisément après 1950. Kojève en vient alors progressivement à la conclusion que la post-histoire, loin d'être un phénomène qui surviendrait à l'avenir, est une réalité d'ores et déjà présente. Si on prend du recul par rapport aux formules grandiloquentes qui fleurissent dès qu'on aborde la philosophie de l'histoire de Kojève, une observation s'impose. Ce qui est en jeu dans cette chronologie de la fin de l'histoire, c'est très précisément la relation entre politique et économie. Et c'est sur ce point que le caractère charnier de l'esquisse d'une phénoménologie du droit se révèle, qui est à mon avis le seul grand ouvrage où Kojève tient les deux bouts de cette relation entre société et entre économie et politique. Kojève s'y emploie à tenir dans un équilibre dynamique l'économie et la politique, deux facteurs dont chacun révèle des traits qui sont irréductibles au fonctionnement de l'autre. Si on remonte dans le temps, dans les années 30, c'est le politique, ou plutôt le politico-anthropologique, qui l'emporte clairement sur l'économie. Les lecteurs marxistes avertis de l'introduction à la lecture de Hegel ne se sont pas trompés là-dessus. Kojève fait, certes, grand cas du travail transformateur du monde, mais celui-ci est le dérivé d'une constellation non pas économique, mais anthropologique sous-jacente, à savoir la lutte pour la reconnaissance. On a beau relever le hegeliano-marxisme de Kojève, force est de constater que la lutte des classes, si elle a bien droit de citer dans l'introduction à la lecture de Hegel, ne se déploie pas dans une sphère économique dotée d'une consistance propre, mais apparaît elle aussi comme une sous-configuration de la lutte pour la reconnaissance. Si notre regard se dirige ensuite vers les années 50 et 60, c'est une situation opposée qui saute aux yeux. Du tout politique, ça bascule vers le tout économique. Au moment même où Kojève devient un agent de l'État français, il dit s'être rendu compte que la politique a disparu au profit du seul domaine économique, ou plutôt du seul domaine économico-administratif. À cet égard, la correspondance avec Carl Schmitt nous offre des clés précieuses. Dans sa première lettre, aussi la plus riche, qui a été éditée en français par Jean-François Kervégan et Tristan Storm, Kojève fait le point sur l'obsolescence du politique. de la politique étrangère, et ça c'est vraiment là encore une citation clé, de la politique étrangère dont il a été question dans l'esquisse d'une phénoménologie du droit, il ne reste que le commerce international. Les relations internationales se pacifient au fur et à mesure que l'économie fait prévaloir ses droits aux dépens de la politique. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes soient résolus, mais même le colonialisme ne préoccupe Kojève qu'en tant que problème économique. Si une division du monde en parties inégales subsiste, c'est uniquement pour des raisons économiques. Kojève, en empruntant au vocabulaire de Schmitt, ne pense plus qu'en termes de Grossräume, de grands espaces économiques, ce qui est en fait assez logique parce que Schmitt, quand il développe la notion de grands espaces, il emprunte ça aux économistes, parce que d'abord c'était Grossraumwirtschaft, ça date de la Première Guerre mondiale. Ce revirement vers l'économie est lourd de conséquences pour le périmètre de l'action collective. De toute évidence, il ne s'agit plus d'une transformation du monde, mais d'un meilleur ajustement de ses composants. Or, ces enjeux-là de production, consommation et redistribution des biens économiques ne relèvent pas de la politique, dit Kojève. C'est une nouvelle administration internationale qui les prend en charge. Et Kojève fait partie de cette nouvelle élite, et il se voue corps et âme aux négociations commerciales qu'il traite en philosophe, c'est-à-dire muni d'un grand dessein. Dans la dernière partie de mon exposé, je voudrais montrer que vers la fin de sa vie, Kojève a cherché à rebâtir l'ordre commercial mondial. Ça c'est un peu le texte qui est fondateur de sa vision sur le commerce international. C'est une revue qui s'appelle Développement et Civilisation. De récentes révélations ont confirmé que Kojève, en plus d'être un philosophe hégélien et un haut fonctionnaire français, était également un espion au service du KGB. Et le KGB connaissait généralement assez bien ses taupes. Car les documents russes publiés jusqu'à présent présentent Kojève comme l'un des architectes, je cite, de la politique française à l'égard du tiers monde. Fin de citation. Quels sont les piliers de cette nouvelle architecture du commerce mondial? J'en énumère trois que Kojève élabore dans un article paru en 1964 dans cette revue Développement et Civilisation. Cet article lui a servi de papier préparatoire pour le Kennedy Round et durant ses négociations commerciales au sein du GATT, Kojève était l'un des délégués français les plus importants. En premier lieu, alors premier pilier, pour éviter les dysfonctionnements catastrophiques du libre-échange, il faudrait organiser les marchés. Kojève préconise la stabilisation des prix anormalement bas des matières premières, puisque près de 90% des exportations des pays en voie de développement sont des matières premières. Elles constituent un facteur économique extrêmement important pour le tiers monde. En second lieu, il appelle de ses voeux la création, à l'instar de la communauté européenne économique, la création de blocs économiques régionaux dans le tiers monde. Kojève a fait campagne, là vous voyez en train de faire campagne, là il est en Amérique du Sud. Kojève a fait campagne pour des blocs régionaux en Amérique du Sud, en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est. Les membres d'un tel bloc régional seraient pendant un moment à l'abri des vents glaciaux du marché mondial. Ce que l'Europe devrait exporter, dit Kojève, c'était ni la démocratie, ni les valeurs des Lumières, mais une forme intelligente de protectionnisme. En troisième lieu, et là ça, je vais conclure là-dessus, il faut que les termes de l'échange entre pays développés et pays en voie de développement deviennent moins inégaux. À cette fin, il plaide pour la mise en place d'un système de préférence tarifaire. Ça a l'air technique, c'est technique, mais pour faire simple, lors des sommets, Kojève s'est de plus en plus souvent rangé du côté du tiers-monde et a dénoncé l'hypocrisie des pays occidentaux qui prêchent l'évangile du libre-échange aux nations pauvres tout en subventionnant massivement des secteurs clés de leur économie. C'est pourquoi Kojève se bat pour que les pays industrialisés accordent des concessions tarifaires aux exportations des produits manufacturés provenant des pays à faible revenu. C'est-à-dire, il devrait être plus facile pour les biens produits dans les pays en voie de développement de pénétrer les marchés des pays occidentaux que l'inverse. Pour les pays exportateurs comme la République fédérale allemande d'Allemagne, cette proposition équivaudrait à une discrimination commerciale. Et les ordolibéraux allemands apporteraient ce qu'on appelait la préférence généralisée, qui érigeait des barrières commerciales alors qu'elles devraient être démantelées. Pourtant, un an que Jeff a convaincu les délégués de l'OECDE, d'abord les Allemands, puis la CEE dans son ensemble, enfin les Anglais, les États-Unis et le Japon. Le Kennedy Round s'achève sur un succès en juin 1967 et ce système de préférence généralisée que Jeff a considéré comme l'une des plus grandes réussites de sa vie fait désormais partie de la marture du commerce international. Merci pour votre attention.